Michel Cotta, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dédiez votre livre à Jacques Cotta, militant et responsable de la SFIO dans les Alpes-Maritimes, votre papa. Alors, en vous lisant, on comprend qu'il a eu un rôle important dans votre vocation. C'est celle qui s'est emparée d'une petite fille, dites-vous, d'une dizaine d'années, qui, à Nice, a vu rentrer à la maison un soir d'élection, après une campagne où il avait été battu, son papa. Alors, je dis qu'en quelques mots, c'était un cadre de la résistance important. Il a été dans le comité de libération départementale des Alpes-Maritimes. Il a été maire de Nice, donc de 45 à 47. Et puis, il a été battu par un adversaire dont on va dire, sans risquer la diffamation post-mortem, dont les états de service n'étaient pas du tout ceux de votre papa, sous la résistance.
Il n'était pas du tout dans la résistance, on est d'accord.
Oui. Voilà. Et qui a été donc Jean Médecin, le père de Jacques. Il a été maire jusqu'en 65. Et en 65, son fils Jacques Médecin, célèbre Jacques Médecin, lui a succédé. Bon, ça s'est terminé en 1990. On va passer les détails. Alors, vous écrivez que vous avez été élevé dans l'admiration de Jean Jaurès et dévoré très tôt sa magnifique préface de l'histoire socialiste 1789-1900. Et puis dans l'admiration de Léon Blum. Ma première question, c'est quand décidez-vous comme on dit, quand on est provinciaux, comme je le suis, de monter à Paris pour faire vos études supérieures et surtout de vous frotter au journalisme.
Écoutez, je n'ai pensé qu'à ça, je crois, depuis que j'avais 12 ans. Vous avez raison de citer l'exemple de mon père, parce que d'abord, il m'a effectivement beaucoup formé à la politique, mais je n'avais pas du tout envie, moi, d'être battu, vous voyez. Je me suis dit, c'est très bien de faire de la politique, mais si vraiment il faut le payer à ce prix-là, ce n'est pas possible. Alors, en revanche, comme j'étais intéressée par la politique et un peu par toute la politique, c'est-à-dire pas seulement celle d'un parti, mais celle de la politique française, je me suis dit que faire Sciences Po, ça m'éloignait forcément de Nice, ça m'obligeait à monter à Paris. Et vous savez bien qu'à un moment donné, il faut, ne serait-ce que pour y revenir après, hein, mais faire les grandes écoles à Paris, et voilà. Et donc, c'est pour ça que je les ai faites. Et j'ai presque tout de suite trouvé, j'ai fait en même temps que Sciences Po, l'Institut français de presse.
D'accord, ouais,
et ouais. J'ai tout de suite trouvé un professeur qui m'a mis le pied à l'étrier, comme je le raconte d'ailleurs dans le livre, en m'envoyant, il m'a dit, où est-ce que vous avez dit de faire un stage, d'accord, mais où? Alors je dis, à l'Assemblée nationale. Et il m'a envoyé à l'Assemblée nationale le 13 mai 1958, au moment où la 4e République est tombée.
Alors
ça s'appelle la veine, ça.
C'est comme ça qu'effectivement démarre votre livre, puisque votre livre est chronologique, hein, donc il couvre la période 58-81, et il est borné, si je puis dire, par deux dates historiques. L'étrangeté, d'ailleurs, c'est qu'elles sont dans le même mois, à trois jours de différence, 13 mai 58, 10 mai 81, avec deux personnages hein, qui font partie, on pourrait presque appeler, non pas d'un carré magique, mais de ce que le général de Gaulle avait pu appeler, on l'appellera pas Carteron, mais un quatuor, hein, puisque c'est véritablement cette bande des quatre différentes, hein, de Gaulle, bien sûr, Pompidou, Giscard et Mitterrand, voilà.
Les quatre personnages du roman, en quelque
oui,
sorte.
Exactement.
Les quatre personnages du roman de la politique de ce moment-là.
Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que c'est à la fois un journal au sens de mémoire, hein, d'évocation, de souvenirs très personnels, et puis on parcourt les 23 premières années de la 5e République. Alors, quand on est comme vous, vous venez de le dire, Michel Cotta, stagiaire à la tribune de presse de l'Assemblée nationale, déjà le lieu impressionne, et qu'on voit le général de Gaulle, comme vous l'avez vu, en civil, même s'il n'est pas resté longtemps hein, sur place, dans les lieux, monter à la tribune pour parler, on est le 2 juin, hein, quel effet ça fait?
C'est un effet sidérant. Enfin, en réalité, j'ai pas bougé pendant, j'ai pratiquement pas bougé pendant de l'Assemblée nationale pendant du 13 mai
ouais.
au début juin, parce que c'était un spectacle politique double au fond. D'un côté, une République qui mourait,
ouais.
avec des gens très bien. Hein. Il y avait des gens très bien dans cette 4e République. Il y avait des gens très intelligents. Il y avait Félix Gaillard. Mmh. Il y avait Edgar Faure, des gens très politiques, très forts, qui avaient fait de la résistance et qui ont vu le pouvoir leur échapper parce que une rébellion à Alger a brutalement changé tout le paysage politique. Alors ça, c'était, si j'ose dire, le paysage sombre, avec des gens qui ne savaient pas ce qui allait se passer, qui se demandaient, tous les jours, on se demandait si les parachutistes allait arriver à Paris. Bon. Et puis de l'autre, ce personnage, tout de même, à l'époque, extraordinairement rassurant, qui était le général de Gaulle, dont au demeurant, on se demandait quelle place il avait, quel rôle il avait exactement joué, si j'ose dire, dans son retour. Est-ce qu'il s'est laissé rappeler par des gens qui voulaient un régime, changer de régime de la 4e République, qui était effectivement une République un peu bancale, qui a fait beaucoup de choses d'ailleurs, mais enfin, qui changeait tous les 6 mois.
21 gouvernements. Donc, hein.
Est-ce que les gens l'ont rappelé au pouvoir? Est-ce qu'une équipe l'a rappelé au pouvoir? Ou est-ce que c'est lui qui, plus habilement, a préparé son retour? Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il a profité, il a laissé se développer autour de lui un groupe qui demandait son retour, mais il ne l'a pas animé, il en a profité.
Vous évoquiez des personnalités de la 4e République, Pierre Mendès France, François Mitterrand, qui sont opposés au retour du général de Gaulle. Sur François Mitterrand, dont vous parlez beaucoup dans votre livre, on le disait au début de notre entretien, un éditorialiste, vous dites bien informé, hein, vous dit « c'est un opportuniste ». Quoi qu'ils disent aujourd'hui, on est début juin 58, quoi qu'ils disent aujourd'hui, il trouvera bien un moyen de se rallier. En réalité, il ne s'est pas rallié du tout et il est resté l'opposant principal du général de Gaulle. Oui, allez-y Michel, allez-y.
Ça n'est pas le seul éditorialiste qui s'est trompé, mais là, oui. Il s'est trompé. Il faut dire que le personnage de François Mitterrand sous la 4e République était un personnage assez controversé. C'était d'abord un politique ayant fait beaucoup de gouvernements, ayant été au ministère de l'Intérieur, proche effectivement de Pierre Mendès France, mais avec des options assez différentes, parfois favorable, on le sait, à l'Algérie française. Et donc, ce personnage-là était à la fois le représentant, il a été ministre de la Communication, alors il était, j'avais dans l'esprit une photo de lui avec un chapeau de forme, ce qui se faisait à l'époque pour aller dans les réceptions. Bref, j'avais l'impression que c'était un politique mondain. Et puis, c'était très important, cette rencontre, si j'ose dire, fortuite avec le général de Gaulle. D'abord, il n'aimait pas le général de Gaulle depuis la résistance, puisqu'il s'était vu à Alger dans de très, très mauvaises conditions, qui avait laissé un très mauvais souvenir à François Mitterrand et au général de Gaulle d'ailleurs. Donc, quand il est hostile au général, parce que dans l'intervalle entre 1944, fin de la résistance, et 1958, il avait créé, le général de Gaulle avait créé un parti de droite qui s'appelait le RPF et qui par conséquent apparaissait, avait laissé un signal de droite à tout le monde politique. Donc, et puis la question se posait, comment revenait-il? Pourquoi d'un seul coup son nom était-il à nouveau prononcé? Est-ce que c'était lui qui organisait cette rentrée? Ou est-ce que c'était ses amis qui se chargeaient de le faire rentrer? Est-ce qu'il était acteur ou est-ce que finalement il était appelé par des gens comme un sauveur? Est-ce que c'était un responsable? Est-ce qu'il était amené par des factieux voilà. comme on disait à l'époque, par des factieux, c'est-à-dire par des militaires factieux, ou est-ce que, tout naturellement, après s'être accroché à la personne du général de Gaulle pendant la guerre, les Français retrouvaient avec le général de Gaulle une assurance et une sécurité. Moi, je crois, pour avoir assez vu de gens pendant la période, y compris d'amis proches du général, parce que tout le monde allait, des tas d'hommes politiques allaient voir le général, Guy Mollet, Roger Stéphane, allaient chez lui à ce moment-là.
À Colombey, à Colombey.
Province.
À Colombey, oui.
Deux églises. Et lui disait, voilà, mon général, on a besoin de vous. Il ne disait rien. Et puis d'autres disaient, mon général, vraiment, il vaudrait mieux que vous ne participiez pas à cette aventure. Il ne disait rien non plus. Il laissait faire, et comme à son habitude, il a exploité la situation au moment où il pouvait l'exploiter, et où d'ailleurs il l'a exploité sans difficulté.
Alors, le fils de François Mitterrand, Gilbert, a eu l'occasion de me dire, on se connaît assez bien, parce que vous savez qu'il a des attaches dans le Sud-Ouest, il a été maire de Libourne, député de la Gironde, et Gilbert Mitterrand m'a dit un jour que son père ne croyait pas que De Gaulle allait rester longtemps au pouvoir à partir de 58. Il pensait que lorsque l'affaire algérienne, c'est un des titres de vos chapitres, hein, l'affaire algérienne, lorsqu'elle serait réglée, en gros, je ne savais pas, mais il repartirait un petit peu comme il était parti en janvier 46. François Mitterrand ne pensait pas que De Gaulle allait durer. Vous confirmez ça ou pas?
Je pense que, comme toujours, François Mitterrand avait plusieurs cordes à son arc. Je pense que Gilbert Mitterrand a raison. Qu'il se disait que le règlement d'Algérien irait très vite et que par conséquent, au bout de 2-3 ans, tout serait, les cartes seraient redistribuées. Il se trouve simplement que la guerre d'Algérie et la fin de la guerre d'Algérie a pris 4 ans, de 1958 à 1962, et que pendant ce temps-là, le général de Gaulle non seulement s'est installé, mais il a changé la Constitution, il a institutionnalisé l'élection du président de la République au suffrage universel, et à partir de là, c'est très difficile, à partir de 65, où il s'est présenté aux élections. D'ailleurs, je reviens sur les élections de 65.
C'est passionnant.
Beaucoup de gens, à gauche et à droite, beaucoup de leaders politiques, ont pensé que le général de Gaulle pouvait ne pas se représenter, justement, en 65, ce qu'aurait fait, au fond, une parenthèse gaulliste d'un septennat de 1958 à 1965. Et le général lui-même a laissé planer un suspense, y compris sur ses proches,
puisque c'est là
où on découvre pour la première fois la personnalité formidable, d'ailleurs, de Georges Pompidou, qui ne savait pas s'il allait être lui candidat ou si c'est le général de Gaulle qui allait l'être. Et Georges Pompidou n'a appris que très tardivement, c'est-à-dire en octobre 1965, que le général de Gaulle, finalement, irait. Alors, irait au rendez-vous politique. Alors, quel rapport, d'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là que les rapports entre Georges Pompidou et le général de Gaulle ont un peu changé. C'est parce que, quelque part dans sa tête, Georges Pompidou s'était déjà mis dans le rôle de candidat à la présidence de la République, que tous les barons du gaullisme, ceux qu'on appelait les barons du gaullisme, c'est-à-dire Jacques Chaban-Delmas, Olivier Guichard, etc., s'étaient pratiquement rangés derrière Pompidou. Et c'est donc le général de Gaulle qui a été et qui a déjoué et les pronostics de Pompidou et les pronostics de François Mitterrand en s'installant durablement au pouvoir.
Je reste sur la période précédant justement la présidentielle de 65, parce que à titre personnel, pour vous, c'est très important, puisque là, pour le coup, après quelques péripéties, vous êtes vraiment installé à l'Express. Hein. On reviendra d'ailleurs sur deux personnalités essentielles dans votre carrière, Jean-Jacques Chaban-Schreiber et François de Giroux. Mais dans la préparation de 65, deux choses de la présidentielle. D'abord, il y a cette incroyable histoire de Monsieur X et de Gaston Defer, hein, dont vous parlez dans votre livre. C'est à la fois savoureux, très précis, vécu de l'intérieur, vu de l'intérieur. Expliquez-nous ce que c'est que cette histoire de l'épisode Monsieur X, parce que l'Express, est, j'allais dire, est au cœur de cet épisode.
Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui est le patron de l'Express, est tout à fait au cœur de l'épisode. Et à quoi pense-t-il en 1962-63? Il se dit, à gauche, il n'y a plus personne. La gauche est complètement enfoncée. Il n'y a aucun candidat de la gauche n'a de chance. Si on laisse les choses se faire, ce sera ou De Gaulle ou son continuateur. Donc, il a l'idée de lancer un personnage qu'il lance comme étant un Monsieur X pour le suspense, vous savez. C'est un des premiers suspens qui a été fait dans la presse, en tout cas. Alors, il y a un numéro où on dit il y a quelqu'un qui est un socialiste, qui réfléchit beaucoup à ce qu'il peut faire après, qui veut être candidat. Puis il y a un deuxième numéro où on dit voilà ce que M. X voudrait faire.
Et on lance le programme de M. X. Pardon Michel, je vous coupe, mais il y a même une de l'Express, si je me souviens bien, avec une ombre noire, avec un homme avec un chapeau. C'est la silhouette hein, de...
Voilà. Et ça doit être le deuxième. Deuxième. Et au troisième, on a compris que c'était le maire de Marseille, Gaston Defer, qui avait d'ailleurs une bonne assise du côté des socialistes et qui était un socialiste modéré, donc qui pouvait très bien regrouper le centre. Et puis, finalement, ça n'a pas marché. Et. Mitterrand s'est retrouvé à un moment donné être sans Gaston Defer, qu'il a vu finalement prendre du champ, et sans candidat centriste, puisque pendant ce temps-là, tous les centristes essayaient de tomber d'accord autour d'un Antoine Pinay ou autour de Joseph Fontanet. Ils ne sont pas tombés d'accord. Et donc, c'est rencontres du centre se sont arrêtées brutalement en avril 65. Et Mitterrand, presque tout de suite, m'a dit « alors je vais y aller ». Personne ne s'attendait à ce qu'il y aille.
Ce qui est extraordinaire, c'est une phrase qui revient à plusieurs reprises dans votre livre, quand vous parlez de vos échanges avec François Mitterrand. Il a cette formule que vous reprenez, page 83, « le chemin est bouché à droite, il faut passer par la gauche ». Alors c'est quand même tout à fait remarquable comme vision, j'allais dire, de la trajectoire politique, parce qu'il y a quand même ce gros bloc du Parti communiste, dont il faut rappeler qu'il représente pratiquement un quart encore, entre 20 et 25% de l'électorat. Alors certes, ce n'est plus le Parti communiste de Maurice Thorez, c'est la transition avec Waldeck-Rocher et le rôle que joue d'ailleurs Jeannette Vermeersch dans cet épisode, dans cette histoire. C'est assez passionnant, vous en parlez. François Mitterrand, en quelque sorte, qui a été le contempteur numéro un du régime, avec le coup d'État permanent, son livre qu'il écrit en 62-63, François Mitterrand a compris que, étant le plus petit, avec la Convention des institutions républicaines, des opposants au général de Gaulle, c'est sur lui que peut se faire la candidature unique, en quelque sorte, des mastodontes que sont le PCF, la SFIO et les autres, quoi.
Oui, c'est quand même, ça n'était pas donné d'avance, c'était vraiment un pari absolument incroyable. D'abord parce que on passe rapidement là-dessus, mais enfin, François Mitterrand avait été éclaboussé par ce qu'on a appelé l'observatoire. Donc il était malgré tout ça, finalement, il a démontré, il a fait le tour de tous les candidats possibles. Il les a vus les uns après les autres, Guy Mollet, il a revu naturellement Gaston Defer, et il s'est aperçu que finalement, ça arrangeait tout le monde que quelqu'un d'autre qu'il y aille. Quelqu'un comme Guy Mollet n'avait aucun, qui était le patron du Parti Socialiste, n'avait aucune illusion. Il savait que Mitterrand serait battu. Et donc, il se disait, après tout, bon, il va être battu, c'est un coup pour rien. autant que ce ne soit pas nous qui le courions, c'est quelqu'un extérieur au Parti socialiste, ben c'est quelqu'un extérieur au Parti socialiste qui sera battu. Et c'est au fond sur une espèce de démission des grands partis que la candidature de François Mitterrand a fini par être acceptée. Elle n'aurait sans doute pas été, si vous avez raison, Waldeck Rochet n'avait pas été à la tête du Parti communiste.
Alors vous avez, à propos de la présidentielle, vous parlez, vous nous présentez un personnage qui a fait beaucoup rire parce que c'était un peu, on l'appelait le Kennedy à la française, d'autres l'appelaient Dent Blanche ou Colgate à cause de son sourire. C'est Jean Le Canuet. Alors vous nous en faites une présentation que je trouve, je connais quand même assez bien la période et les auteurs, qui est tout à fait à contre-pied, si je puis dire, ou en contre-teinte de ce qu'on a dit généralement sur lui. D'abord, vous dites qu'il avait dans la vie privée un langage, une drôlerie qu'il n'avait pas du tout publiquement. Il faut quand même rappeler qu'il est l'héritier du MRP, de la démocratie chrétienne. On va dire que c'est plutôt quelqu'un de très mesuré. Il était plutôt gouailleur. J'ai retenu, c'est beaucoup plus tard dans sa vie politique, vous le citez ça, page 391, à l'occasion d'une déclaration de Giscard, qui est président de la République et qui est à l'Élysée, et qui reconnaît l'indépendance possible du peuple palestinien. Alors, je cite Le Canuet, parce que vous le citez, c'est très drôle. Le Canuet vous dit, d'ailleurs vous dites, vous-même, je vous cite, hein, Michel Cotta, dans son vocabulaire qui m'amuse depuis des années, tant il est différent de son langage public, il lasse son commentaire, deux points, ouvrez les guillemets, les juifs plus les pieds noirs, qui pour d'obscures raisons sont souvent juifs et en tout cas toujours anti-arabes, ça nous fait un paxon d'un million de voix dans la gueule. Bon, fin de citation. Pardon, mais on n'a pas l'impression que c'est du Le Canuet, hein, dont je dis au passage que le canard enchaîné, pour des raisons propres au canard, le canard l'appelait l'homme qui rit dans les cimetières, je crois me souvenir de Jean Le Canuet. Bon.
Oui, enfin, mais c'est comme d'autres. Écoutez, oui, c'était un personnage tout à fait fascinant, et je me suis beaucoup demandé pourquoi d'ailleurs il était passé dans cette campagne comme effectivement l'homme aux dents blanches, superbe, assez beau à la télévision, faisant un effet dès qu'il apparaissait à l'écran, alors que les Français n'étaient pas habitués à avoir des opposants à l'époque à l'écran. Et puis celui qu'il était, c'est-à-dire s'exprimant effectivement dans un vocabulaire tout à fait net et cru, mais se transformant quand il le fallait, et notamment quand il était à la télévision, en personnage centriste, modéré. Non, mais ce qui est formidable quand on voit, pardon, c'est juste une parenthèse, mais quand on voit tous ces hommes politiques, ce qui est important dans leur personnage, dans leur densité, et on comprend comment ils ont marqué leur époque, c'est leur complexité. Ils sont beaucoup plus complexes si on voit le général de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand, Le Canuet et plus tard Chirac et Giscard. Ils sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes, beaucoup plus retors qu'on le pense. Et surtout, non, ils ont une profondeur, vous voyez, ils ont chacun des multiples facettes différentes.
On va revenir à vous, Michel Cotta, dans vos débuts dans la presse. J'ai évoqué deux personnalités tout à l'heure, François Giroux et Gigi SS, à l'Express. Vous les rencontrez le même jour, parce que c'est François Giroux qui vous présente au patron de l'Express. Vous dites dans le livre que vous êtes en admiration de François Giroux, vous la lisez. Il faut dire que l'Express existe depuis 53-54, hein. C'est profondément associé au mendécisme, hein, dans l'histoire des idées françaises.
Nous allons fêter dans quelques jours.
Oui.
Nous allons fêter dans quelques jours son 70e anniversaire.
Exactement, oui, bien
sûr. Donc l'Express existait.
Qu'est-ce que François Giroux vous a apporté? Et parlez-nous d'elle un peu, c'est compliqué comme question, mais...
Non, c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui a eu un rôle absolument capital dans ma vie. D'abord, j'étais universitaire, j'avais une thèse de troisième cycle, et ben finalement... on s'aperçoit que même quand on a écrit 400 pages de thèse, eh ben, on ne sait pas forcément écrire un article. Donc, je dois dire qu'elle m'a vraiment d'abord appris le travail. Ensuite, elle m'a appris à peu près tout, c'est-à-dire la façon d'interviewer les gens, la façon de travailler beaucoup. Elle travaillait beaucoup, je me rappelle encore Françoise, même lorsqu'elle était au sommet de sa célébrité, elle arrivait à 9h du matin à l'Express, elle sortait à 9h du soir et elle travaillait sans arrêt. Quand elle faisait son éditorial, par exemple, mais aussi quand elle revoyait toute la copie, enfin, ce qu'on appelle la copie, tous les articles de tous les journalistes. Et elle m'a donné des leçons permanentes. Voilà, j'étais son assistante personnelle pendant 2 ans avant de passer au service politique. Et elle m'a donné, au fond, toutes les leçons de comportement, à la fois de comportement de journaliste et à la fois de comportement humain, la façon dont on s'habillait, la façon dont il fallait pas avoir des souliers trop hauts parce que sinon on était fatigué. Enfin bon, voilà, c'était pour moi, ça a été un modèle, bien sûr. Je dois dire qu'en plus, ça m'a permis de démontrer que, vous savez, on dit toujours, les hommes disent souvent, les femmes sont très très méchantes avec les femmes. Et ben, ça a été le contraire, vous voyez. Heureusement que je suis tombée sur un patron femme qui a fait ma carrière, finalement.
On voit bien d'ailleurs quelque part que, mais j'y reviendrai dans un instant, mais que JJSS était plus dur d'ailleurs, hein, avec les femmes.
Oui, ils avaient un numéro. Ils avaient un numéro à deux. C'est-à-dire que pendant que, justement, le jour où elle a manifesté l'envie de m'engager, où elle m'a dit « Bon, il faut que vous alliez voir Jean-Jacques Servan-Schreiber », quand je suis arrivée, Jean-Jacques Servan-Schreiber m'a dit « Bon, alors, écoutez, François, je vous veux, très bien, mais de deux choses l'une, ou vous réussissez dans la maison à prendre le pouvoir sur le service littéraire, ou vous n'y arrivez pas, dans ce cas-là, je vous fous dehors. » Bon, évidemment, alors vous acceptez. Et naturellement, c'était fait pour que je dise « j'accepte ». Je n'allais pas caler devant la première difficulté. Et puis après, Jean-Jacques m'a au moins autant aidé que Françoise dans l'appréhension du métier. Sauf que j'avais un peu plus de... Comme Françoise Giroux, de temps en temps, elle disait « qu'est-ce qu'il va encore m'inventer, celui-là ? Qu'est-ce qu'il va encore m'inventer ?» Et effectivement, il a inventé Monsieur X, il a inventé des tas de choses. Et... le couple faisait que l'un était... Françoise était méticuleuse, travailleuse et avait une vraie autorité féminine, c'est-à-dire pas exquise, avec des sourires, mais enfin, elle vous disait quand même ce qu'elle voulait. Et l'autre, Jean-Jacques Servan-Schreiber, avait une autorité de patron souvent incontrôlable, d'ailleurs, mais avec des qualité absolument formidable.
Les lecteurs comprendront, verront leur histoire entre eux aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette période, Françoise Giroux, j'allais dire, met sur le, je dis pas le marché du journalisme politique, mais elle forme d'autres femmes à côté de vous, hein, Catherine Ney, enfin les formes où elle les recrute, Josette Alia. Plus tard, il y aura Christine Claire qui arrivera.
C'était une idée de Jean-Jacques. Françoise, elle nous a mis en garde, d'ailleurs, je me rappelle à l'époque. Jean-Jacques s'est dit, bon, on va mettre 3 filles d'entre 25 et 30 ans à l'Assemblée nationale, où il n'y a pas de filles, il y a beaucoup de députés, mais il y a très peu de femmes. Et puis, elles vont les faire parler. Et Françoise, tout de suite, nous a dit, attention, attention à votre comportement, à votre façon d'interroger les gens. Bon, et on nous a donné à chacune un secteur. C'est-à-dire Catherine Ney avait la droite et moi j'avais la gauche. Et puis le soir, quand on se retrouvait dans nos bureaux vers 5h du soir, après une journée à l'Assemblée nationale, on se racontait tout, évidemment. Et c'est pour ça que j'étais toujours au fait de ce que pensait la droite et Catherine était toujours au fait de ce que me disait la gauche. Donc c'est comme ça qu'on a maintenu
Josette Alia suivait le Parti communiste, je crois.
Non, Josette Alia n'était pas... Pardon, je vous coupe. Josette Alia était à l'Observateur. Elle était à l'Observateur. C'était moi qui suivais le Parti communiste et le Parti socialiste.
Alors, on avance parce que malheureusement, le temps nous manque. Parlons de Georges Pompidou, parce que c'est aussi une série de propos dans votre livre. Il y a un chapitre entier qui s'appelle « Le nouveau Pompidou ». C'est un personnage, on sent qu'il vous impressionnait. Vous n'étiez pas la seule, mais je me trompe ou pas ?
Non, vous ne vous trompez pas. Il avait une autorité naturelle et une densité absolument, absolument formidable. Alors, il a été, ça s'est apparu assez vite. Alors, lorsqu'il a fait son premier discours de Premier ministre, après le départ de Michel Debré, il a fait un premier discours de Premier ministre qui était, je dois dire, devant l'Assemblée nationale, assez mauvais. D'abord parce qu'il a été accusé au début d'avoir travaillé chez Rothschild. Alors, les députés de gauche lui criaient Rothschild, Rothschild, et ça le choquait beaucoup. Et puis, il n'était pas habitué. C'est très difficile. Après, il m'a expliqué que c'était très difficile de s'exprimer devant un hémicycle, c'est-à-dire des gens vous regardent de tous les côtés. Et donc, c'était très difficile. Bon, et je me rappelle qu'après sa première prestation télévisée, télévisé bien sûr, mais à l'Assemblée nationale, nous sommes retrouvés un petit groupe de journalistes autour de François Mitterrand. Et le petit groupe de journalistes disait « Oh ben dites donc, c'est pas terrible ce qu'a fait Pompidou, c'est très décevant. » Et François Mitterrand, qui ne le connaissait pas, hein, nous a détrompés, nous dit « Vous avez tort, vous allez voir, un premier discours, c'est toujours très difficile à faire. Mais en attendant, ça va être un des adversaires les plus sérieux que je vais avoir contre moi. » Et donc, c'était drôle de voir que le seul, finalement, qui reconnaissait ses qualités était celui qui deviendrait son adversaire.
Je vous interromps une seconde, parce que ça me permet de relever un commentaire que vous faites qui est très intéressant. Vous dites les personnalités politiques, les grands fauves de la politique ont une espèce de sixième sens. Ils se reniflent entre eux. Et ils se respectent presque comme des lutteurs. C'est très intéressant. Est-ce qu'on peut dire la même chose, par exemple, de Giscard Mitterrand, de Chirac avec Giscard, ou de Sarkozy avec Hollande, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut le dire, ça ?
Là, je m'arrête dans ce premier livre à 1980, donc à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Donc, après, quand même, la notion que la France a des hommes politiques change un peu à partir des années, mettons, 90, 92. Donc, oui, y a chacun se reconnaît, au fond, à... c'est l'histoire d'une génération, ce que je fais, c'est une génération politique, hein, donc avec ces quatre personnages dont vous parlez et qui prennent la suite du général de Gaulle. Je crois qu'ils se sont tous reconnus. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing irritait beaucoup Georges Pompidou, mais il s'est senti à un moment donné, lorsqu'il est revenu président de la République, il s'est décidé à le reprendre avec lui parce qu'il savait quand même que c'était un personnage avec lequel il fallait compter et qu'il valait mieux avoir parmi les siens que contre lui. Alors, Georges Pompidou et François Mitterrand, ils n'ont jamais eu une de rencontre réelle, sauf des rencontres publiques. Et je me rappelle comment à Nevers... Comment donc Georges Pompidou faisait une émission, faisait son débat, un premier grand débat électoral, et il avait invité François Mitterrand, lui donner la contradiction. Et bien, on sentait quand même entre les deux un vrai respect. Georges Pompidou n'a pas insisté pour que la salle qui lui était acquise, bien sûr, ne chahute pas Mitterrand. Mitterrand n'en a pas trop fait, il a dit ce qu'il avait à dire et puis il a tourné les talons. Ça n'a pas servi à grand-chose, ça a simplement montré qu'ils se reconnaissaient tous les deux comme les vrais adversaires de la vie politique et c'était une reconnaissance de l'un par rapport à l'autre. Même chose sur la façon dont donc il y a Georges Pompidou et Giscard, et dont la façon dont, par exemple, Waldeck Rocher, communiste, a considéré François Mitterrand, et était aussi de cette trempe-là. Il s'est dit, il y en a qu'un qui peut sortir de l'ornière, c'est lui. Et il faut l'aider. Et d'ailleurs, je remarque qu'au Parti communiste, il n'était pas, et de loin, suivi par tout le monde. Et je me demande si, d'ailleurs, il a été suivi par les Russes. Et à mon avis, ça n'a pas été le cas. Et ça expliquait que Waldeck Rocher quitte assez rapidement le terrain politique sous le prétexte d'une maladie, mais en réalité, peut-être parce qu'il avait été écarté par Moscou, qui considérait que François Mitterrand était presque plus dangereux que le général de Gaulle, parce qu'il était plus atlantique, en quelque sorte.
Alors, dans votre livre, il est évoqué, bien sûr, la séquence de mai 68, une affaire terrible, qui est une grosse séquence, où là, on voit s'accentuer la fêlure entre de Gaulle et Pompidou, hein, très, très, très clairement. S'ensuit le départ de Pompidou du gouvernement, son remplacement par Couve de Murville, et puis la période entre juin 68 et le départ du général de Gaulle qui va s'en suivre avec l'élection de Pompidou, cette terrible affaire Markovic, dont vous parlez, qui est véritablement un moment très dur pour Georges Pompidou. On est obligé, là, encore une fois, d'avancer. Dans la période qui suit, il y a des propos tout à fait très intéressants de votre part sur Jacques Chaban-Delmas, à Matignon, la nouvelle société. En vous lisant, je me disais, certes, il y a ce quatuor de personnalités qui suit le général de Gaulle, hein, dans la période, et puis il y en a qui vont jamais réussir à gravir la dernière marche qui les a séparés dans leur cursus politique du premier étage de l'Élysée, du bureau présidentiel. Alors, je pense à deux personnalités, Jacques Chaban-Delmas, bien sûr, et Michel Rocard. Qu'est-ce qui leur a manqué à ces deux-là pour y arriver, à votre avis?
Alors, Chaban était un personnage tout à fait éminent de la résistance, hein, même s'il était très jeune à l'époque et s'il est entré dans la résistance assez tard. Il a été un personnage éminent de la 4e République, dans une sorte de parti charnière qui soutenait le général de Gaulle, tout en quand même acceptant des compromis avec les autres. Donc c'était un homme politique très connu.
Ça s'appelait les Républicains sociaux. Hein, les Républicains sociaux. Et il rentre dans le gouvernement Mendès en 54. Hein, il rentre dans le gouvernement Mendès en 54.
Voilà. Donc il y a quand même, vous voyez, il y a une flexibilité, si j'ose dire, de Chaban-Delmas. Georges Pompidou le nomme parce qu'il peut difficilement faire autrement. Il est élu avec une majorité de gaullistes qui est déjà là, et il ne peut prendre que parmi les gaullistes. Alors pouvait-il prendre plutôt Olivier Guichard? Ça aurait peut-être été plus commode pour lui. En attendant, il ne pensait pas que Chaban allait jouer son jeu, c'est-à-dire aller s'entourer de conseillers tout à fait éminents comme Jacques Delors et Nora, et qu'il allait véritablement vouloir proposer un programme présidentiel. Or, c'est ce qu'il a fait le 16 septembre, le discours d'investiture Jacques Chaban-Delmas, et finalement un discours du président de la République où il dit tout ce qui ne marche pas en France et tout ce qui devrait changer. Mais il se trouve que d'abord, il n'a pas transmis son discours à Georges Pompidou, qui est quand même président de la République, et qu'ensuite, Pompidou, sa première réaction est de se dire, mais quoi, il est en train de parler de la nouvelle société qu'il va faire, c'est une façon de condamner celle qu'a fait le général de Gaulle jusqu'à maintenant. Donc c'est de là que naît, dès le 16 septembre, une vraie irritation de Georges Pompidou pour Chaban-Delmas. Et d'ailleurs, Georges Pompidou fait immédiatement, ce qui ne se fait jamais, hein, 3 jours, 4 jours plus tard, il fait une conférence de presse, au fond, pour dire « voilà tout ce qui a marché, voilà tout ce que nous allons faire, le franc se porte bien, nous allons le récupérer sur les marchés ». C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle un discours de Premier ministre, alors que l'autre avait fait un discours de Président de la République. Ce chassé-croisé est quelque chose que Georges Pompidou, qui était à la fois très ouvert, assez rancunier, et il savait oublier, bien sûr, parce qu'en politique, il faut savoir tout oublier, mais il était assez rancunier. Il n'a, à partir de là, jamais pardonné à Jacques Chaban-Delmas, en essayant, évidemment, de maintenir... Il ne pouvait pas s'en débarrasser tout de suite. Donc, en essayant de maintenir un équilibre entre Matignon et l'Élysée, assez difficile, et qui s'est finalement mal terminé. Mal terminé pour Jacques Chaban-Delmas. Rocard, c'est autre chose. Rocard, c'est donc un leader beaucoup plus jeune que François Mitterrand, un leader de ce qu'il appelle une nouvelle gauche, c'est-à-dire d'une gauche qui n'est pas la gauche traditionnelle socialiste, qui n'est pas, surtout pas, la gauche communiste, une autre gauche qui soit à la fois centriste, plus équilibré sur le modèle politique, c'est-à-dire pas de nationalisation, pas de bouleversement, mais au contraire une gestion assez de gauche, mais égalitaire et je ne veux pas dire modéré, parce que ce simple mot de modéré énerverait beaucoup Michel Rocard s'il était là. Mais enfin, une troisième gauche plus compatible avec la vie moderne, dans laquelle le dogme de Marx et d'Engels n'était pas les mieux venus, puisqu'il a même parlé, lui, à un moment donné, d'autogestion, ce qui était quand même le comble. Donc c'est une deuxième gauche moins classique, si vous voulez, que celle que Mitterrand incarnait. Voilà. Et puis, il s'est rallié, finalement, quand même, à François Mitterrand, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement avec son petit PSU. Donc, il s'est rallié à un moment à Mitterrand. Mais lorsque Mitterrand a raté l'élection de 1974, il s'est dit que là, vraiment... Mitterrand avait raté l'élection de 64, de 65, il avait réussi celle de 65, mais De Gaulle avait réussi celle de 65, mais lui avait raté, que c'était un deuxième énième ratage et qu'à ce moment-là, Rocard avait sa chance. Mais il l'a saisi d'une drôle de façon, révélatrice d'ailleurs de sa personnalité, qui était tout à fait aussi une personnalité riche et intéressante. Il l'a choisi presque avec son tempérament de boy scout sincère et généreux, c'est-à-dire que quand il a présenté sa première candidature devant François Mitterrand au congrès de Metz, il a dit « Cher François Mitterrand, je ne serai pas candidat si vous l'êtes ». C'est une drôle de façon avouée d'annoncer sa candidature, parce que s'il avait dit à l'époque « Cher François Mitterrand, je serai candidat et vous pouvez faire ce que vous voulez, je resterai candidat », c'était gagné. Et puis il a recommencé la même erreur, je ne sais pas si c'est une erreur ou quelque chose d'intérieur à lui qui bloquait. Mais en tout cas, dans cette conférence de presse qu'il fait près de Paris, là, dans la ville dont il est maire, tout le monde attend sa conférence de presse, on attend toute la journée. Et puis finalement, il dit qu'il présente sa candidature devant le comité fédéral de Paris et de la Seine. Alors, vous voyez, si vraiment il voulait être candidat, il fallait dire, là, pour le coup, c'était en plus très tard, hein, c'était en 1980, il fallait dire, je suis candidat, et Mitterrand aurait été... La popularité de Michel Rocard était telle que s'il avait dit, oui, je me présente, je pense que Mitterrand n'aurait pas tenté de se présenter. En attendant, c'est ce qu'il me disait à l'époque. Alors, il a laissé du temps au temps. Par conséquent, il a laissé Rocard se présenter. Mais comme il s'était présenté devant un comité fédéral, Mitterrand a fait acte de candidature aussi. Et tout aussitôt, Rocard a retiré sa candidature. Ce qui prouve, moi, il y a un phénomène, Rocard, hein, il y a une interrogation, Rocard. C'est quelqu'un de très attachant, qui avait un public, des soutiens vraiment importants, et puis quelque chose en lui qui n'allait pas jusqu'au bout. Voilà, alors quand je dis ça, on me dit, je sais qu'on me dit maintenant, ah, mais vous n'êtes pas gentil pour Rocard. Non, je suis persuadée que c'est Rocard qui n'a pas été gentil pour lui-même. C'est différent. Il y a quelque chose qu'il a. Donc ça rend le personnage intéressant. Hein, c'est un personnage de roman aussi. Ils sont tous un peu des personnages de roman, ces grands hommes politiques.
On n'a pas le temps d'évoquer la figure de Giscard, mais alors là, voilà vraiment un personnage romanesque, hein, avec un. Voilà, avec un septennat qui commence d'une manière extrêmement moderne, pour le coup, jusqu'à la photo présidentielle, hein, quand même. Faut se souvenir de cette photo de l'Artigue qui, quand même, bouleverse les codes, hein, complètement. Les premières décisions. Là.
Il bouleverse les codes.
Oui, allez-y.
Les premières décisions, c'est-à-dire l'IVG, le droit à l'avortement, l'élection, la possibilité de voter à 18 ans. C'était très courageux de sa part parce que les jeunes n'étaient pas forcément en sa faveur. Il y a eu une période flamboyante.
Le septennat se termine un peu dans une autre dimension que ce que d'aucuns vont traiter de monarchique. Et puis, il y a cette affaire des diamants de Bokassa. Chirac, même chose. Chirac, personnage tout à fait romanesque. Bon, on n'a pas le temps, malheureusement, hein, d'évoquer tout ça. Je voulais terminer par une dernière question, enfin, une dernière observation. Quand on vous lit, ce qui est très frappant dans ce livre, dont vous dites que c'est à la fois moitié histoire, moitié souvenir, hein. Vous remerciez d'ailleurs à la fin votre éditeur Jean-Luc Barré de vous avoir permis, on le connaît bien, la librairie Mola, Jean-Luc Barré de bouquin, d'avoir permis de faire ça. Et puis on attend avec impatience la suite, donc 81 maintenant. Bon. Est-ce qu'on peut dire de vous, Michel Cotta, un peu en reprenant le livre, le titre d'un livre de Raymond Aron, Le spectateur engagé, hein, que vous avez été une spectatrice engagée, parce que ce qui est très frappant, c'est comment vous êtes parfois au cœur, je pense à cet épisode où au soir du premier tour de 65, Georges Dayan vous donne les clés de son appartement rue de Rivoli pour l'ouvrir et attendre l'arrivée de deux personnalités, en l'espèce Pierre Mendès France et Jean Daniel, et Olivier Chevrillon, je crois, de l'Obs. Et puis Mitterrand va venir rencontrer PMF chez Dayan. Vous êtes actrice à ce moment-là, vous n'êtes pas que spectatrice, non ?
Oui, on est d'accord sur les grands jours d'élection, les rencontres secrètes, parce que c'était une rencontre secrète, se font un peu par les journalistes. C'est d'ailleurs pas un hasard si c'est Jean Daniel qui était le patron de l'Observateur, qui a amené Mendès France, tandis que moi, on m'a demandé simplement d'ouvrir la porte et de disparaître. Mais ça m'est arrivé dans d'autres, avec d'autres personnes. Il m'est arrivé de faire une interview, une longue interview de Jacques Chirac et de connaître tous les amis qu'il avait en Corrèze et de les suivre sans. Moi, ce que j'aime, vous voyez, c'est recouper les sources. Alors là, dans le cas de Mitterrand, c'est vrai que comme j'étais à l'Express délégué à la gauche, ils ont profité de moi pour ouvrir la porte. Mais ce que j'aimais bien, ce qui m'a intéressé toute ma vie, c'est de croiser les sujets, les propositions, de voir ce que l'un disait, de ce que l'un disait de l'autre, ce que l'autre disait de l'un, ce en quoi ils ne se comprenaient pas. Alors que c'était évident qu'ils auraient dû se comprendre davantage. C'est tout le temps vérifier ce que disent les uns sur les autres et ce qu'ils envisagent sur la vie et recouper les informations, comme on dit. Et ça, c'était vraiment. On voit dans le même temps des gens devant le même. Devant le même objet, devant le même objet politique, hein, je veux dire, devant la même considération politique, tout de suite vous sortir deux interprétations complètement différentes et de bonne foi. Et c'est ça, au fond, la politique. Sinon, Ils s'entendraient tous bien s'ils se comprenaient vraiment. Mais on a déjà, par exemple, je me rappelle le mot d'Olivier Guichard sur Georges Pompidou et Jacques Chaban-Delmas, qui me disait à un moment donné, ces deux-là, ils seront fréquentés toute leur vie et ils ne se seront jamais compris. Et ça, il y a des gens, effectivement, qui ne se comprennent jamais. Et c'est ça, la politique.
Alors, grâce à vous, si je puis dire, je remontre votre livre. J'avais encore plein de questions à vous poser, en particulier sur les débats présidentiels, celui de 1974, le fameux débat, le premier du genre, Giscard-Mitterrand, le match retour que vous arbitrez hein, avec Jean Boissonnat hein, en 81. Bon, on n'a pas le temps. Je remontre le livre à la caméra. Ça, c'est le tome 1. Vous disiez tout à l'heure, on peut regarder un même objet et ne pas le comprendre, bah, grâce à vous, on comprend mieux votre cinquième, hein, qui est aussi la nôtre. Merci, Madame Cotta, merci beaucoup. J'espère à bientôt pour le tome 2. Voilà.
Voilà, très bien. À l'année prochaine.